Bonsoir mon frère Guy, si on te bénisse. Good? Bon. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bienvenue à cette 24e édition, 24e session de l'enseignement de la parole de Dieu avec thème le service et le service en temps de défi. Le Seigneur est fidèle depuis le début. Il a été fidèle et il continue à être fidèle. On peut compter sur sa fidélité. Il est toujours là avec nous. Il nous soutient. Il nous fortifie. Il nous nourrit. Il pourvoit tous nos besoins. Et il a notre présent et notre avenir entre ses mains. Et même si nous vivons des temps avec beaucoup de défis, nous savons qu'avec le Seigneur, nous allons de l'avant et nous avons la victoire. Je voudrais juste également souligner, aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est le jour du souvenir, on se souvient du sacrifice, de l'engagement, de la dévotion de gens très spéciaux, spéciales, très importants dans notre société pour le service. On parle justement du service et ces gens-là font un service au prix de leur vie. Et bien sûr, on fait référence aux militaires, à nos soldats, ceux qui sont tombés au combat pour la liberté et pour qu'on ait une société libre. Et également ceux qui, aujourd'hui, sont en train de servir. Et ce n'est pas juste eux, mais c'est également leurs familles qui sont impliquées dans tout cela. Donc, on veut rendre hommage et remercier tous ces gens-là pour leur service et leur dévouement, car nous en bénéficions tous. Également, nous voulons prier de façon particulière pour cette étude, mais également, je sais que vous devez sûrement suivre ce qui se passe chez nos voisins du Sud avec les élections, et c'est toujours pas fini. C'est toujours pas fini. Et plus le temps avance, plus les tensions peuvent s'attiser, plus les positions peuvent se polariser même. Déjà que sont pas mal extrêmes, une division qui commence à prendre de plus en plus de l'ampleur dans la nation. Et on a d'un côté quelqu'un qui n'a pas encore été confirmé comme président, mais qui commence déjà à agir comme présidentiel ou présidentiable. On a le président actuel qui, par toutes sortes de moyens judiciaires, essaie de renverser la vapeur et de faire changer les résultats. Donc, imaginez-vous un petit peu où est-ce que tout ça peut s'en aller. Et en plus, dans un pays où est-ce qu'il y a plus de 300 millions d'armes à feu. Il y a beaucoup d'éléments qui sont présents pour que la situation prenne une tangente non désirable et non désiré pour personne, y compris nous qui sommes les voisins. On n'aime pas ça avoir des voisins bruyants, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, prions pour nos voisins. Prions pour nos voisins localement, mais prions également pour nos voisins du Sud. Il y a un peuple également de Dieu assez nombreux, assez important, qui est au milieu de tout cela et son témoignage est crucial dans les temps qu'on vit, dans les temps qui vivent. Ce que l'Église de Dieu, le peuple de Dieu va faire ou ne fera pas durant ces temps va être crucial et très déterminant. Je pense que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ont un rôle à jouer qui est déterminant dans ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'on peut prier pour qu'ils prennent la bonne décision, qu'ils suivent la volonté de Dieu au-delà de leur de leur parti, au-delà de leur position politique, philosophique ou économique, qu'ils prennent la position du royaume de Dieu. Et donc, prions pour cela et prions pour notre session, que le Seigneur puisse encore nous parler, nous instruire, nous révéler encore plus de choses sur le service. J'espère que avec toutes ces semaines que nous avons passées ensemble, ben j'espère que ça vous a donné envie de servir. J'espère que ça vous a donné le goût de servir Dieu, de servir les uns les autres, de vous renouveler, de vous ressourcer dans ce qui est l'appel sur votre vie, dans ce qui est la volonté de Dieu dans votre vie. Qu'elle soit claire, révélée, parfait, vous avez eu une prophétie, vous avez eu une vision, un ange est venu vous voir, ça a été confirmé par trois pasteurs et quatre films, je sais pas. C'est bien. Mais même s'il n'y a pas eu ça, l'appel à servir est là sur votre vie parce que nous avons été sauvés pour servir. Alors, déjà là, je pense qu'on a tous un point où est-ce qu'on peut commencer. Et j'espère qu'avec tous les enseignements que nous avons eus, bien, ça vous a donné le goût de vous ressourcer, de vous replonger, de rediriger même peut-être votre vie d'une manière à pouvoir servir l'Église, servir Dieu et servir le monde. Donc, élevons la voix et prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour cette journée, pour cette soirée, Seigneur, que nous pouvons passer en ta présence, Seigneur, sous la lumière de ta parole, sous la direction de ton esprit, sous ta bénédiction, Seigneur. Couvre-nous par ton sang précieux. Couvre-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Que ta gloire, Seigneur, nous couvre. Et Seigneur, ta présence, Seigneur, nous fortifie, nous inspire, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, agir au milieu de nous, Seigneur, et faire de grandes choses de sorte que nous soyons la lumière du monde, nous soyons le sel de la terre, Seigneur, et que notre lumière puisse briller et luire, Seigneur, dans les temps que nous vivons. Merci, Seigneur, pour chaque bien-aimé qui est là, Seigneur, qui est prêt à recevoir, Seigneur, de ta parole, qui veut être renouvelé, Seigneur, qui veut redécouvrir cet amour pour le service, cette compassion, Seigneur, que ton caractère, Seigneur, déteigne sur nous. Que comment tu as servi, Seigneur, cela vienne nous changer, vienne nous transformer. Et que nous soyons, Seigneur, de vrais serviteurs, de vraies servantes, Seigneur. On veut également prier pour la situation aux États-Unis, Seigneur. Nous savons que tu es en contrôle de tout. Nous savons que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le roi des rois, que tu es celui qui gouverne, Seigneur, sur toutes les nations. Et Seigneur, nous prions pour cette situation, Seigneur, qui nous ne savons pas, Seigneur, vers quoi ça va se diriger, mais toi, tu le sais. Et tu as un peuple, Seigneur, qui est là. Il y a un peuple qui prie, Seigneur. Il y a un peuple, Seigneur, qui a un témoignage à donner. Il y a un peuple, Seigneur, qui a une position à prendre. Et ce n'est pas la position d'un parti, Seigneur. Ce n'est pas la position d'un candidat. C'est la position de ton royaume. C'est la position, Seigneur, de ta parole. C'est la position de ta volonté, Seigneur. Que tu puisses donner grâce, Seigneur, à ton peuple, à tes enfants, Seigneur, pour profiter de ce temps, Seigneur, pour se lever et être l'Église qu'elle doit être et servir comme elle doit servir dans les temps qu'ils vivent, Seigneur. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, allons dans la lecture, nous allons dans Marc au chapitre 7 et on va lire à partir du verset 24 au verset 37 et c'est ce qui va compléter dans le fond notre étude du chapitre 7. Donc nous allons dans Marc au chapitre 7 et à partir du verset 24 au verset 37. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Avant de rentrer dans l'étude de ce soir, on va faire un bref survol de La semaine dernière, nous avions vu que Jésus, après avoir eu ce premier échange avec les scribes et les pharisiens concernant la cérémonie du lavement des mains avant la nourriture, il appelle la foule à lui, il appelle les gens auprès de lui. Et ça c'est une indication importante de que l'important, c'est pas ce qu'on sait par rapport aux philosophies, aux opinions. Il y a beaucoup d'experts qui vont vous parler de ci et de ça. Mais l'important, c'est qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quelle est la position de Dieu? C'est seulement en venant à lui que nous allons comprendre et recevoir la vérité qui est source de vie. Et en faisant cela, en venant vers le Seigneur, mais il y a un défi là, c'est le défi d'abandonner ou de s'éloigner de notre tradition humaine, de notre façon de penser qui nous a été peut-être transmise ou que nous avons développée au cours des années qui, dans le fond, ne repose sur rien de biblique. Et on a besoin de remplacer ça par la parole de Dieu. Et là, il y a un défi qui nous attend à nous tous. On a également remarqué que après avoir démontré, dans le fond, l'invalidité, même l'absurdité de la tradition que les pharisiens voulaient imposer au peuple, Jésus y va avec une déclaration révolutionnaire. Et ça nous parle également parce que Jésus est révolutionnaire. Et tout ce qu'il dit est frappant et doit nous changer, doit nous secouer. Et on a besoin dans nos vies, pour sortir justement de ce cocon de tradition, d'être secoué par la révolution que Jésus veut faire dans son Église, par la révolution que Jésus veut faire dans nos cœurs, et de quelle façon il va l'initier à travers sa parole. Et c'est important que nous soyons mise au défi par la parole de Dieu. On a vu également que Jésus prend le temps de remettre en place quelque chose d'important. Les gens de l'époque qualifiaient certains aliments comme impurs et Jésus a dit, c'est pas l'aliment qui est impur, c'est ce qui sort du cœur. C'est le cœur, les mauvaises pensées. On a passé à travers toute la liste que Jésus énumère, la liste noire du cœur, si on peut dire. Et pour nous faire comprendre que ce qui est important pour nous, ce sont les pensées, les désirs qu'il y a dans notre cœur, et les actions, les comportements, les paroles, le style de vie qui va en découler. Et on a vu également que vivre le royaume de Dieu commence de l'intérieur, animé par l'esprit. On a vu que la foi, lorsqu'on met vraiment la foi dans la parole de Dieu, lorsqu'on met véritablement notre confiance, notre assurance dans la parole de Dieu, c'est là où il y a une séparation qui se fait avec nos traditions humaines. Et qu'il était important de veiller sur notre cœur. Ça devenait vraiment quelque chose de primordial. De primordial. Qu'il fallait pas mettre l'emphase, et dans le fond, l'emphase n'était pas sur l'apparence extérieure. Les scribes et les pharisiens étaient experts là-dedans. Mais Jésus leur a dit, vous êtes une bande d'acteurs, vous êtes des hypocrites. L'important, c'est le cœur. Et dans le fond, en regardant en détail cette liste-là, eh bien, je pense la seule ou la première réaction qu'on devrait avoir, nous tous, c'est de s'approcher de Dieu avec humilité, puis de lui demander de créer en nous un cœur pur et un esprit droit. Alors voilà un peu ce que nous avions vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on a lu, dans le fond, deux passages. Deux passages différents qui traitent de deux miracles qui ont eu lieu dans deux territoires différents. Le premier, c'est le territoire de Tyr et de Sidon, des territoires qui sont au nord de la Galilée. Et l'autre a lieu dans le territoire de la Décapole, la province de la Décapole, où est-ce qu'on en a déjà parlé. C'est là où est-ce que Jésus a traversé la mer et a rencontré le démoniaque. Qui était possédé de plusieurs démons. Il est retourné à plusieurs reprises. Donc, il y retourne cette fois-ci, et là, il rencontre, on lui amène un homme qui était sourd-muet. Ce qu'il y a de commun avec ces deux territoires-là, c'est que les deux étaient considérés impurs aux yeux des Juifs, parce que c'était des endroits à prédominance païenne. Des gentils, ce n'était pas des territoires où il y avait une majorité juive. Il y en avait à l'époque, il y a plusieurs siècles auparavant, dans ce qu'on appelait à l'époque la Décapole, mais tout ça s'est perdu. Il y a eu beaucoup d'influences grecques, beaucoup d'influences des autres nations qui sont venues s'installer dans la région de Galilée. Donc, ce qui a fait en sorte que aujourd'hui, ces régions-là étaient vues comme païennes. Donc, impur. Et si vous remarquez une chose, tout ce qui est traité dans le chapitre 7 a à voir avec la notion de pureté et d'impureté. Et Jésus, à travers ces événements-là, les amène à l'avant-plan pour remettre les choses à leur place. Et dans le fond, il traite des vrais problèmes. On aurait dit que les pharisiens ou que les gens venaient amener un problème, mais Jésus ramenait toujours l'attention sur c'était quoi le vrai problème. Il y avait les mains impures, il y avait les aliments impurs qu'on a vu la semaine dernière. Et là, on nous parle de régions ou de gens qui, aux yeux des Juifs, étaient considérés comme impurs. Donc, l'approche, la perspective, si on peut dire humaine et terrestre, juive, était au début du chapitre, avec le lavement des mains, la notion d'impureté au niveau des mains avant de manger. Par la suite, sur les aliments, parce qu'il y avait également une croyance par rapport à certains aliments qui étaient considérés comme impurs. Et ici, Jésus va dans des régions, va dans des territoires qui sont considérés impurs aux yeux des Juifs. Et à travers ces trois enseignements-là, Jésus traite les vrais problèmes. Le vrai problème avec le lavement des mains, c'était pas les mains impures. C'était le respect de la tradition. C'était le problème des traditions humaines, des rudiments du monde, des philosophies qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Dans ce qu'on a vu la semaine dernière, Jésus le dit clairement. Le problème, ce n'est pas qu'il y a des aliments impurs ou purs. Le problème, c'est le cœur. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. C'est ça qu'il veut dire, Jésus, de façon claire. Il dit, voilà ce que moi, à mes yeux, est considéré impur. Pas un aliment. Ce qu'il y a dans le cœur, ce qui sort du cœur. Donc, il traite le problème du cœur. Donc, il traite en premier le problème avec les traditions humaines. Il traite par la suite le problème du cœur. Et ici, il va traiter, dans le fond, le problème du manque d'amour et du manque de compassion. Parce que pour un juif, il était hors de question d'aller dans ces régions-là et d'avoir quelconque contact ou rapprochement avec les gens qu'ils étaient à leurs yeux considérés comme impurs. Et ça, c'est important de garder en tête parce que ça va revenir là. Verset 24, il est dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon, et il entra. Ce que je veux qu'on remarque ici, c'est il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Avez-vous remarqué que, à bien des reprises, Jésus se fait très discret. À bien des reprises, Jésus veut pas la fanfare. Il ne veut pas qu'il y ait la parade qui le précède. Il ne veut même pas qu'on annonce sa venue. Il veut être très discret. Et croyez-moi, c'est pas une question d'insécurité. C'est pas que Jésus avait de l'insécurité en lui ou qu'il était timide ou qu'il était gêné. Jésus avait... Non. Et c'est encore plus bizarre parce que sachant qui il est, sachant le mandat de sa vie, sachant le message puissant de l'Évangile, ben nous tous on dirait, ben au contraire, il faudrait pour qu'il ait le plus d'impact, il faudrait qu'on fasse des annonces, il faudrait qu'il ait de la publicité, il faudrait qu'on annonce quand Jésus va aller dans un village, il faudrait que tout le village sache, puis les gens aux alentours, il faudrait qu'on fasse des campagnes de publicité là pour annoncer Jésus parce que c'est le sauveur, parce que il y a un mandat dans sa vie qui est glorieux et qu'il y a un message vraiment important pour l'humanité. Donc, il y aurait eu toutes les raisons de faire de la publicité. N'est-ce pas? Et il le fait pas. Et même s'il ne le fait pas, mais il n'y en a pas besoin. Pourquoi? Parce que les gens viennent quand même. Et on l'a vu à maintes reprises. Des fois même, Jésus pensait arriver, ou les disciples pensaient arriver à un endroit où ça allait être tranquille, et bien la foule les attendait déjà. Et partout où est-ce que Jésus allait, le message se répandait, et les gens venaient en foule, et des multitudes se rassemblaient autour de Jésus. Donc Jésus n'avait même pas besoin de publicité. Jésus n'avait pas besoin de faire de plan de marketing, comme on dirait aujourd'hui. Mais vous savez, Jésus n'était pas là pour faire de l'autopromotion non plus. Et ça, c'est important parce que ça démontre le caractère humble du serviteur. Il s'annonce même pas. Il est pas important. Un serviteur n'est pas important. Je répète, un serviteur n'est pas important. Serviteur sert. C'est pas lui l'important. Et même dans ce mandat glorieux, même dans cette toute puissance, même dans ce message si précieux, Jésus, lui, qui est le seul qui accomplissait la loi, le seul exerçait les cinq ministères, le seul qui manifestait tous les dons, tous les talents, même en étant l'excellence, l'absolu, il se présentait comme un serviteur, c'est-à-dire qu'il ne s'annonçait même pas. Il s'autoproclamait d'aucune façon. Et il n'y avait pas besoin de faire de publicité non plus. Ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que combien de fois nous, aujourd'hui, les églises, on mise sur la publicité, on mise sur des budgets qu'on va allouer à des campagnes de communication, de marketing ou de promotion, ou est-ce qu'on va faire même de l'autopromotion, on va s'autopromotionner soi-même, juste dans le but d'attirer les gens. Et puis combien de fois, lorsqu'il y a un événement qui a plus ou moins du succès, une campagne, ou peu importe, un concert, quelque chose il n'y a pas eu beaucoup de monde, pas eu beaucoup de succès, combien de fois on entend la phrase qui dit « Ah, c'est parce qu'on n'a pas fait une bonne publicité. » Ou on ne s'est pas pris assez à l'avance pour faire de la bonne pub auprès des autres églises ou des autres institutions, je ne sais pas, ou auprès du public. On a manqué dans la publicité, on a manqué dans la communication. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que je ne suis pas en train de dire que je suis contre ça, là. Je pense que c'est important de pouvoir avoir, et également avec les moyens qu'on a aujourd'hui, de pouvoir diffuser le plus qu'on peut, partager le plus qu'on peut l'Évangile et qu'est-ce qu'on veut, de quelle façon est-ce qu'on veut le promouvoir. Mais lorsque ton plan marketing ou ton plan ou ta publicité vient compenser ta faible spiritualité, lorsque ta campagne publicitaire d'autopromotion vient en fond compenser au fait que toi et moi, on ne sert pas comme Jésus, que toi et moi, on n'aime pas comme Jésus, qu'on n'est pas au niveau de Jésus-Christ, ben c'est là où il y a un problème. Parce que on ne fait pas les choses comme le Seigneur les a fait. Et on les fait pas non plus avec la motivation qui était animée par le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'autopromotion. Puis plus grande est leur face sur le poster, mieux c'est. Comme si, parce que telle personne va être là, eh bien, la gloire de Dieu va descendre ou que Dieu va se manifester. Vraiment. Est-ce qu'on est rendu là? Et non seulement ça, mais je réitère, est-ce qu'on est obligé de faire tout ça, de dégager des fonds, de mobiliser des ressources, parce que, dans le fond, l'Église ne fait pas bien son travail de servir et d'aimer comme Jésus l'a fait, et qu'on est obligé de compenser? Je ne sais pas. C'est peut-être une question à réfléchir, à méditer chacun individuellement, mais une chose est sûre, c'est que Jésus n'avait pas besoin de faire de la publicité ni de l'autopromotion. Les gens venaient parce qu'ils savaient que Jésus était là. Peut-être les gens, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est que Jésus est ici. Et qu'ils entendent parler de ce que Jésus est en train de faire ici. Et de ce que Jésus est en train de faire dans nos vies. De ce que le Seigneur est en train de faire dans nos familles. C'est peut-être là où est-ce qu'il faut qu'on commence et qu'on n'essaie pas de compenser à droite, à gauche avec des moyens humains, mais qui ne rendent pas gloire à Dieu, qui ont une portée, une efficacité très faible. Il y a des églises qui dépensent des millions, ils montent des programmes. Et vous voyez ça et vous dites, waouh, c'est beau ces programmes-là, mais dans le fond, c'est juste pour attirer les gens. Et c'est tout. Ça s'arrête là, bien des fois, tristement. Donc, que le Seigneur nous aide. Mais je pense qu'il y a quelque chose que nous, on doit tous réfléchir là-dedans. Parce que Jésus, de la façon qu'il a servi, Jésus, la façon qu'il aimait, a touché des vies, a eu un impact, et on va le voir dans les prochaines diapos, a eu un impact puissant, de sorte qu'il n'y avait pas besoin de publicité. Et Jésus était humble, comme un serviteur. Et c'est peut-être là aussi où est-ce que le Seigneur a besoin de travailler nos cœurs, de travailler nos vies. Parce que le service de notre service, le service de l'Église devrait avoir un impact comme Jésus, dans le fond. Et ici, dans le fond, le Seigneur nous démontre, et je pense qu'il nous donne nous donne la clé. Il nous donne la clé pour avoir un service d'impact. Le premier bloc que nous avons vu, lorsque les pharisiens vont se présenter devant Jésus, qui remarque que les disciples ne se lavaient pas les mains selon la tradition. Ce qu'on ressent de cet enseignement, c'est qu'il est plus important et il est primordial même de s'attacher à la parole de Dieu plutôt qu'aux traditions et aux philosophies humaines. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. L'Église aujourd'hui n'est pas attachée complètement à la parole de Dieu. Elle dépend de bien d'autres choses. Ça va bien, tout va bien, c'est beau, mais dès que les choses vont plutôt moins bien, des fois on se détourne et on va vers nos traditions. On va vers la façon comment nous on vivait avant, ou comment nous on pensait avant. On se tourne vers telle ou telle autre philosophie et on abandonne la parole de Dieu. On n'aura pas d'impact si on n'est pas attaché à la parole de Dieu. Le point de départ est là. Est-ce que je suis moi attaché à la parole de Dieu? Si je sers, si je veux servir, mais que cette parole-là, elle n'est pas gravée dans mon cœur, je n'aurai pas d'impact, même si je fais les plus grands gestes et je pose les plus grandes actions. Il faut qu'on soit attaché, chacun d'entre nous. Devons être attachés à la parole de Dieu et être dans le processus où est-ce qu'on délaisse nos traditions, où est-ce qu'on délaisse nos coutumes, toutes les choses qui nous ont été peut-être imposées ou enseignées depuis des années, mais qui n'ont aucune base biblique et que ça ne mène nulle part. Que ce sont seulement des rudiments humains. Mais il faut s'attacher à la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on l'a vu la semaine dernière, c'est de garder son cœur pur. Garder son cœur pur des mauvaises pensées, des mauvais désirs. Et ça également, c'est essentiel, c'est la clé. Avoir un cœur pur, servir avec un cœur pur est tellement important. Donc la sainteté, la pureté, faire cette différence entre ce qui est agréable à Dieu et ce que Dieu voit comme péché. Et troisièmement, ce qu'on voit ici, que Jésus va vers des territoires qui étaient considérés comme impurs, il y va avec amour, il y va avec compassion, donc avoir la compassion, dans le fond, envers tous, envers tout le monde. Au lieu de faire de la sélection, au lieu de faire du favoritisme. Et qui fait du sélection, qui fait de la sélection, qui fait du favoritisme, en contrepartie, fait de la discrimination. Donc, comment est-ce que Jésus a eu l'impact dans son service? Bien, voilà les éléments. Et Marc 7 nous l'expose et nous le démontre. S'attacher à la parole, être transformé dans notre pensée selon la parole. Si notre pensée est plus en lien avec ce que le monde fait ou avec ce que le monde pense, bien, on est inefficace par rapport au service à Dieu. Mais quand on est attaché à la parole de Dieu, là, ça fait une différence. Si on a le cœur pur, si on se garde, on fait attention. On veille sur notre cœur et sur ce qui vient s'y déposer. Ça, c'est un élément important. Donc, servir avec un cœur pur et servir avec amour et avec compassion. Voilà ce que Marc 7 nous enseigne. Il nous dit, Jésus avait cet impact-là partout où il allait, parce qu'on retrouvait cela chez lui. Ça, c'était son ADN, c'était sa marque d'identité, c'est ce qui émanait de lui. On pouvait le voir, ces éléments-là, lorsqu'on voyait Jésus. Donc, c'est sûr que nous, en ayant ces choses-là dans notre vie, on aurait un impact comme le Seigneur. Et si l'Église aimait et servait comme Jésus, ben on n'aurait pas besoin de plan marketing. Ça, c'est sûr. Donc, important, bien-aimé, pour nous ici, de méditer, de réfléchir et de prier. Peut-être vous dites, ah, ben, je ne vais jamais avoir un service qui va être agréable ou qui va faire une différence dans la génération qu'on vit parce que j'ai manque de foi ou j'ai une foi trop petite. J'ai la misère à croire Dieu ou à croire sa parole. Vous me dites, mais je suis constamment en train de lutter contre des mauvaises pensées. Tout ce que Jésus énumère dans les versets 21-22, ben c'est moi. Je suis sauvé, je suis baptisé, j'ai été rempli de Saint-Esprit, mais tout ça, je le vis quotidiennement. Peut-être que c'est ça, ou peut-être vous dites, j'ai la misère avec tel type de personne et y a des gens qui, juste, je suis pas capable. Donc, involontairement ou inconsciemment, je choisis qui je sers. Et du moment où il y a quelqu'un qui est trop différent en moi, eh bien, je m'engage pas. Ou je me tiens loin. Peut-être que vous dites ça, mais l'important, on est tous là-dedans. On est tous dans ce processus-là. L'important, c'est d'avancer dans la transformation. L'important, c'est de continuer à marcher avec le Seigneur et de laisser davantage le Seigneur changer et travailler notre cœur, nos pensées, notre vie. Il sait quelles sont les traditions, les pensées de tradition, les coutumes que nous devons abandonner qui sont un obstacle à son service. Il sait qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur qui nous souille et qui nous fait chuter et qui nous enlève de la position de service que Dieu veut que nous soyons. Dieu sait également si on a de la misère et si on manque d'amour et de compassion. Donc, c'est d'aller vers lui, d'aller davantage vers lui et dire, Seigneur, quand tu travailles dans ma vie, parce que je veux avoir un impact. Je veux que ma vie ait un impact pour ton royaume. Je veux que mon service vaille la peine pour ton royaume. Je pense qu'on peut tous s'identifier avec ce type de requête et ce type de prière, parce que personne n'est rendu comme Jésus. Nous avons tous des aspects de notre vie à travailler, à demander au Seigneur de travailler dans nos cœurs, dans notre vie, par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, important. Mais important qu'il faut avancer. Il faut changer. Il faut se rapprocher de comment Jésus vivait, comment Jésus pensait, du caractère de Jésus. Il faut se rapprocher de ça plus que jamais. Il faut s'y rapprocher à comment Jésus était. Et parce que Jésus avait cet impact, eh bien, Jésus pouvait conquérir, d'une bonne façon, bien sûr, pouvait conquérir des nouveaux territoires. Jésus pouvait aller là où est-ce que le Juif, à cause de sa tradition, à cause de son cœur impur, à cause de son manque de compassion, ne pouvait pas aller. Jésus pouvait aller et il pouvait conquérir. D'où l'importance de repasser tout ce qu'on a vu là. C'est important dans le service. La Bible nous parle que Jésus est allé dans les territoires de Tyr et de Sidon. Tyr et Sidon étaient des villes phéniciennes qui étaient sous la gouverne de Syrie, mais c'était quand même des villes assez, assez autonomes, assez indépendantes. Et dans l'histoire, ils ont quand même eu un rôle à jouer comme ville. Tyr était considérée comme une forteresse presque naturelle à cause des rochers qui protégeaient la ville des flots, des vagues. Donc, il y avait une sorte de protection naturelle, là. Et c'est de ces territoires-là qu'on nous dit que les premiers marins ont navigué en suivant les étoiles. Avant, lorsqu'un bateau et des marins se trouvaient la nuit sur l'eau, c'était très dangereux. Et les marins évitaient de se retrouver justement pris dans la noirceur de la nuit. Mais on nous dit que c'est de cette région-là que les marins ont commencé à naviguer en suivant les étoiles. Un autre aspect important aussi, c'est que certains affirment que ces villes devaient appartenir à Israël. Et selon la répartition qui avait été donnée par Josué, ça nous laisse sous-entendre cela que le territoire d'Israël devait arriver jusqu'à ce territoire-là. Dans Josué chapitre 19, versets 28 et 29, on lit et vers Hébron, Rehob, lorsque dans le fond, ici, Josué est en train de faire la répartition du territoire à la tribu d'Aser après la conquête. Donc, il dit ceci, et vers Hébron, Rehob, Hamon et Cana jusqu'à Sidon la Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr et vers Ossa pour aboutir à la mer par la contrée d'Aksib. Donc, ça laisse sous-entendre que le territoire d'Israël devait aller jusque là-bas. Mais dans l'histoire, on voit que les Israélites n'ont jamais occupé ou n'ont jamais, de façon permanente, occupé ces territoires-là. Ils n'ont jamais réussi à garder de façon permanente le contrôle de ce territoire-là. Et qu'à l'époque de Jésus, eh bien, oubliez ça, là, il était hors de question qu'un Juif aille mettre les pieds là-bas, là, ou aille faire quoi que ce soit dans cette région-là. Mais ça nous montre quelque chose que là où Israël, dans le fond, a échoué avec les armes, et avec la politique, et avec la tradition, mais Jésus a conquis avec l'amour et avec le message de l'Évangile et avec la compassion. Et l'Église, eh bien, nous qui sommes armés, entre guillemets, de l'Évangile et de l'amour du Christ, également on peut conquérir là où la force, là où la violence, là où la persuasion, là où la politique ont échoué et vont échouer. C'est pour ça que l'Église est importante. C'est pour ça que l'Église a un rôle important dans ce qui se passe aux États-Unis. Parce que là où la politique va échouer, là où la violence va échouer, l'Église peut conquérir. Et l'Église aujourd'hui est appelée à conquérir des nouveaux territoires, conquérir des cœurs qui ne pourront pas être conquis autrement que par la parole de Dieu et l'amour de Jésus. Rien d'autre. C'est la seule chose, ce sont les seules choses qui vont conquérir des pays, qui vont conquérir des familles, qui vont conquérir des cœurs. La parole de Dieu, l'Évangile, qui est puissance de Dieu, et l'amour de Christ manifesté à travers nous. Gardons ça en tête. Gardons ça en tête, parce que c'est ce que Jésus nous enseigne encore une fois en allant vers ces régions-là. Le Seigneur nous enseigne également deux autres choses à travers la guérison ou les guérisons qu'il a opérées. Premièrement, lorsqu'on regarde le miracle qu'il a opéré dans la fille de la femme grecque, on apprend que, on comprend qu'il faut apprendre à honorer la foi des autres. Et ça, c'est important. Parce que des fois, on pense que nous, on a la foi. Et bien des fois, on ne sait même pas c'est quoi la foi. La foi, ce n'est pas une connaissance. La foi, ce n'est pas une information. La foi, c'est accepter. La foi, c'est faire confiance. La foi, c'est accepter de dépendre, de recommander sa vie, son sort à Dieu. C'est d'accepter Dieu et d'accepter la volonté de Dieu, d'accepter la parole de Dieu. Et donc, pour des gens qui sont différents, ils vont peut-être avoir une vie qui va être différente à la nôtre. Ils vont avoir peut-être même une perception qui est différente à la nôtre. Mais ils vont avoir une foi qui sera sincère. Et si nous sommes campés dans nos traditions, nous n'allons pas voir cette foi comme une vraie foi. Et on va faire du mal à cette personne-là. Cette personne-là qui vient avec une foi sincère et authentique. Et que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de cette personne et veut nous utiliser. Mais si nous, comme je dis, on est campés dans nos traditions et non pas dans la parole de Dieu, on va mal diriger cette personne-là. Au lieu d'attirer cette personne-là ou de l'amener à Christ pour que Dieu puisse honorer cette foi-là, on va l'amener vers nos traditions où est-ce qu'il ne va rien se passer. Où est-ce que cette personne-là va tomber dans d'autres choses et va juste se convertir en un religieux. Mais qu'est-ce que nous pouvons lire et comprendre de cette femme? Premièrement, c'est que c'est une femme grecque d'origine syro-phénicienne. Donc déjà là, ça sort pas mal du cadre juif. Une personne avec beaucoup de culture, des cultures fortes, et qui touche beaucoup de monde, dans le fond. Elle vivait un terrible drame, quelque chose de très difficile dans la maison avec sa fille qui était possédée de démons. Mais la Bible nous dit qu'elle avait la foi. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus et elle s'est jetée aux pieds du Seigneur, lui demandant de venir en aide dans sa situation. Et là, Jésus répond en donnant une illustration qui, pour certains, ont peut-être trouvé que c'était dur. Puis on dit, ouais, mais si Jésus est amour, comment ça se fait qu'il réplique de cette façon-là? Et Jésus, dans le fond, il dit, au verset 27, il lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus, dans le fond, ici accomplissait la parole dans laquelle il disait que il allait aller aux Juifs, premièrement. Mais il fermait pas la porte aux gentils. Il fermait pas la porte aux non-juifs. S'il aurait fermé la porte aux non-juifs, ben, il se serait jamais rendu à Tyr et à Sidon. En premier lieu, il serait jamais allé là-bas. Donc, le fait qu'il se soit rendu là-bas démontre déjà la vérité prophétique pour nous, dans laquelle Jésus allait pas seulement pour les Juifs, mais allait pour tout le monde. Donc, Jésus allait pas juste pour les siens, mais allait pour tout le monde. Et ça doit nous parler également, parce que nous, on n'est pas appelés juste pour aller vers les nôtres. On est appelés vers tout le monde. On est appelés pour aller vers tout le monde. Et là, donc Jésus explique que la priorité est aux enfants, donc aux enfants d'Israël, et que par les suites, les petits chiens. Et là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, il parle à une grecque, et pour les Grecs, autant que pour les Juifs, le mot chien était considéré comme une insulte. Mais, il y a une nuance. Le mot chien en grec, c'est kouon, qui veut dire, au-delà de dire, de signifier que c'est chien, c'est également quelqu'un qui a l'esprit impur, quelqu'un qui est impertinent. Mais ce n'est pas la parole qui est utilisée ici. Jésus emploie le mot, ou les mots, petit chien, qui est un dérivé qui veut juste dire un petit pitou, un petit chien. C'est ça qu'il veut dire. Donc, dans le fond, Jésus enlève la partie offensante. Dans ce qu'il parle, dans ce qu'il dit, il n'y a aucune offense, il n'y a aucune insulte. Jésus n'est pas en train d'insulter la femme en la traitant de chien. Il est juste en train d'illustrer que, en premier, c'était aux Juifs que l'Évangile devait aller, mais qu'il allait avoir aussi pour les gentils ou pour les païens. Mais étant donné la foi de cette femme, et probablement que cette femme avait le sens de la répartie, mais elle l'a répliqué à Jésus. Il l'a répliqué en disant, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » En d'autres mots, elle exprima sa foi. Elle avait la foi, mais là, elle l'a confessée en disant, « Il y a quand même pour nous. » Oui, ok, c'est vrai, ça a été donné pour les Juifs en premier, mais il y a quelque chose pour nous aussi. Il y a quelque chose pour moi. Je m'approche parce que je pense que j'ai quelque chose. Il y a quelque chose pour moi. Dieu peut faire quelque chose dans ma vie. Je suis peut-être pas digne. Je cadre pas peut-être avec le standard de la société. Je cadre pas peut-être avec le standard de l'Église. Mais j'ai assez de foi pour m'approcher et assez de foi pour penser que ce Dieu-là a quelque chose pour moi. Ça, c'est de la foi. Ça, c'est de la foi. Et Jésus n'avait pas d'autre choix que d'honorer cette foi. Et de la faire remarquer, parce qu'il lui dit, dans Matthieu également, on retrouve ce passage-là, il lui dit, ta foi est grande. Donc, il dit, t'as pas une petite foi, là. Ta foi est grande. Et Jésus honore cette femme. Et Jésus intervient dans la situation familiale et le Seigneur se glorifie. Mais comprenez une chose, c'est qu'il y a des gens qui vont venir également, qui vont pas cadrer dans ce que c'est la culture d'Église. Il y a des gens qui vont se présenter avec, pas avec une petite foi, mes amis, mais avec une grande foi. Une foi peut-être même plus grande de ce que nous ici aurons. Il faut faire attention. Parce que ces gens-là ne viendront pas habillés de la même façon que nous. Ne viendront pas du même style de vie que nous. Ne viendront pas avec la même situation familiale que nous. Ils viendront avec des situations familiales difficiles. Ils viendront avec un arrière-plan culturel compliqué peut-être. Et ne viendront pas non plus avec les repères ni avec les gestes et les coutumes qui sont propres aux cultures d'Église. Mais ils vont venir avec la foi. Et tout comme Jésus a honoré la foi de cette femme, nous devons apprendre à honorer la foi. Et faire attention parce que là où peut-être nous on voit une petite foi, Dieu en voit une grande. Là où est-ce que nous peut-être on voit un petit cœur, une petite conviction ou une petite pensée où on se dit, ah, c'est peut-être juste parce qu'elle passe un mauvais moment, donc elle s'approche de Dieu. Elle vient à l'église parce que là, elle passe pas des moments difficiles. Puis dans le fond, Dieu voit autre chose, là. Dieu voit une foi, Dieu voit une confiance, Dieu voit une décision, une conviction, une assurance. Et Dieu n'a pas d'autre choix de répondre. Faut que j'honore cette foi-là, faut que je l'honore. Donc, en plus, elle est venue vers mes enfants, elle est venue à l'église. Donc, faut que j'honore la foi de cette personne-là. Faisons attention de ne pas saboter la foi des autres, mais de l'honorer comme il convient pour des enfants de Dieu. Et l'autre chose qu'on voit également, et ça on le retrouve dans le passage qu'on voit plus tard au verset 31, au verset 37, c'est quand Jésus quitte dans le fond ce territoire-là, il va dans la Décapole, puis là on lui amène quelqu'un qui est sourd-muet. Et Jésus, dans le fond, le prend à part. Et Jésus fait une série de choses qui peuvent sembler un peu bizarres, puis on pourrait se dire, ben pourquoi est-ce qu'il fait ça? T'sais, si dans d'autres miracles, Jésus a juste parlé, puis la personne a été guérie, ou dans d'autres cas, Jésus a juste imposé les mains, puis la personne a été guérie. Et là, pourquoi est-ce que Jésus prend les doigts, les met dans les oreilles, prend sa salive, puis touche la langue? Je dis, OK, pourquoi avoir besoin d'aller jusque-là quand on sait que dans d'autres cas, ben, Jésus a juste dit la parole, puis le miracle a eu lieu. Bien, allons voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Ça veut dire, ben, on voit que Jésus apporte, qu'on apporte plutôt à Jésus un sourd-muet. La tradition, la croyance, pas juste des Juifs, mais de probablement bien des cultures, était que si une personne souffrait d'infirmité, c'était une conséquence du péché. Donc, il y avait un péché sur sa vie, ou c'était quelque chose qui était générationnel. Donc, il y avait une malédiction. Si c'était des personnes qui étaient maudites, qui avaient un mauvais sort, qu'un ancêtre avait fait quelque chose, puis là, c'est la punition qui suivait toutes les générations par la suite. Donc, déjà, en partant dans la vie, tu pars mal, là. Déjà que tu as l'infirmité, déjà que tu es malade ou tu as des problèmes de santé, mais non seulement ça, mais en plus, tu es perçu dans la société comme un marginal. Je veux dire, personne veut s'associer avec toi, personne veut être ton ami, personne veut socialiser avec toi parce que tu es considéré comme une personne impure, comme une personne qui a sûrement fait quelque chose dans la vie qu'il n'aurait pas dû faire, puis voilà la conséquence. Ou que c'est ton père ou ton grand-père qui a fait quelque chose, puis voilà la punition qui tombe sur toi dans le fond. Donc, on peut dire que c'était pas une vie facile pour ce gars-là. Le fait d'être sourd-muet. Et qu'est-ce que la tradition, les croyances disaient par rapport à ce type de personne-là? Donc, on peut comprendre ou on peut déduire que cette personne-là vivait ou avait une vie difficile et devait être souvent embarrassé à cause de sa situation. Ce qu'on sait également, c'est que pour les personnes qui étaient considérées impures, si une personne touchait cette personne-là, bien, était contaminée. D'où la grande distance ou la grande discrimination qui était faite auprès des gens qui étaient considérés impurs parce qu'ils étaient carrément mis à l'écart de la société. On voulait avoir le moins de contact possible et qu'ils prennent part au moins d'activités dans la société, justement parce que si moi je touchais quelqu'un qui avait une infirmité ou qui était considéré impur, ben je devenais impur moi aussi. Puis là, il y avait tout un rituel que je devais respecter, que je devais suivre pour revenir dans la pureté, dans le fond. Et revenir et être réintégré, dans le fond, dans la société. Donc, il y avait un poids lourd qui reposait sur ces gens-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, ben, pas grand monde voulait socialiser avec ces gens-là. Et Jésus fait quelque chose qui doit nous parler, parce que on le voit au verset 33, il dit qu'il le prend à part, loin de la foule. Comprenez une chose, c'est que cet homme-là qui était sourd-muet a dû avoir combien de situations embarrassantes publiquement à cause de sa condition. Pas seulement parce qu'il était sourd-muet, déjà là, la communication très très difficile, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager, de pouvoir donner son opinion. Très, très, très compliqué. Mais en plus, considéré. Donc, cet homme-là Je pense qu'au quotidien, ils vivaient des situations embarrassantes, publiquement. Pas dans le privé, là, mais devant les yeux de tout le monde. Publiquement, cet homme-là était humilié. Cet homme-là était embarrassé. Et là, Jésus, il prend part. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, on va arrêter ça. On va arrêter cette mise dans l'embarras quotidien. Ce que je vais faire pour toi, je vais le faire pour toi. Je vais pas le faire pour les gens, pour la foule. Je vais le faire pour toi. Donc, toi qui n'as jamais eu peut-être un contact personnel avec quelqu'un, toi qui as toujours été peut-être en public, mais tu as toujours été seul, je te prends part. Puis c'est peut-être le premier contact humain, personnel, que cet homme-là a eu avec un autre être humain pendant des années. Voyez un peu ce que Jésus fait. Il va pas dans le « Hey, hey guys, regardez-moi là. Vous voyez ce sourd-là, je vais le guérir. » Puis ça va être dans YouTube, puis ça va être dans Instagram, puis tu sais, Facebook, il va y avoir plein de commentaires, puis plein de likes. Non. Jésus était pas dans l'autoproclamation de « Regardez-moi faire, là, tu sais, je suis en train de guérir quelqu'un, puis houhou, tu sais, tout le monde va être après moi, puis je vais être une super vedette et tout ça. » Jésus le prend part, parce que pour lui, ce qui est important, c'était cet homme-là, la situation de cet homme-là. Pas ce que la foule allait faire par la suite, là. Et ça doit tellement nous parler, parce que bien des fois, on se dit, ah, on est dans une situation, puis on se dit, ah, tu sais, c'est l'opportunité pour moi de briller, tu sais. C'est l'opportunité pour moi d'utiliser cette situation-là pour, moi, me mettre à l'avant-scène, tu sais. Moi, me mettre sous la lumière, puis que là, tout le monde voit que je suis bien, que je suis bon, que je suis ci, que je suis ça. Puis, ben, en tant que chrétien, je pense que c'est pas l'attitude à avoir. Du moins, c'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Donc, Jésus prend cet homme-là, puis il le met à part. Et là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Jésus va toucher ce qui cause, ce qui est la cause de tout l'embarras dans sa vie. Jésus va toucher, va littéralement toucher tout ce qui est la raison pour laquelle cet homme-là a une vie si difficile. En d'autres mots, il va s'identifier avec la misère de cet homme-là. Il ne va pas le regarder d'un air hautain pour dire, ben, je suis quand même mieux que toi, ou je suis supérieur à toi, je vais t'aider, mais quand même, je vais t'aider de ma position, ce que moi je suis, de mon statut, ce que moi je suis. Non, Jésus a touché cet homme-là, sachant que selon la culture, la tradition, cet homme-là est impur. Mais Jésus est allé toucher exactement là où tout a commencé pour lui. Et en faisant ça, il s'identifie avec les difficultés de cet homme. Comme je dis, je répète, il y avait une opportunité là pour faire quelque chose puis que toute la foule fasse la vague et innovation pendant 10 minutes. Il ne l'a pas fait. Il a pris cet homme-là à part, il lui a donné du temps de qualité à quelqu'un qui avait peut-être soif de socialiser, qui n'avait jamais vécu ça, qui ne savait pas c'était quoi socialiser, qui ne savait peut-être pas c'est quoi avoir un ami, parler avec quelqu'un. Et là, Jésus prend soin de lui. Il ne répond pas juste aux besoins qui étaient là, puis OK, on passe au suivant. Non, il s'identifie. Il y a cette compassion-là qui l'amène, lui, à s'identifier avec la difficulté puis avec le problème de cet homme-là. Et Jésus a guéri cet homme-là, mais il a guéri en prenant soin de lui, en restaurant d'autres aspects dans sa vie qui avaient été brimés aussi à cause de sa maladie. Puis ça doit nous parler beaucoup. Pourquoi? Parce que on ne peut pas voir les gens comme des numéros, puis il faut prendre le temps avec les gens. Il faut prendre le temps d'écouter les gens. On parle de plus en plus, à cause de tout ce qu'on vit, du confinement, puis de la pandémie et tout ça, on est en train de parler de plus en plus des problèmes de santé mentale. On est en train de parler de que le gouvernement débloque des fonds justement pour venir en aide. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des gens autour de nous qui sont dans le besoin. Ils sont peut-être pas sourds-muets, mais socialement vivent des difficultés. Et sont dans un besoin. Leur âme a besoin d'avoir un temps de qualité, ne serait-ce juste d'avoir un temps avec quelqu'un. Nous, on ne peut pas se permettre juste de faire une prière ou de dire, OK, toi, Dieu va te bénir, puis on passe au suivant, puis OK, je me suis débarrassé de lui, puis, ou d'elle, puis on est passé au suivant. Non. La façon comment nous, on est appelés à servir, Dieu nous le démontre clairement. C'est honorer la foi que les gens auront, même s'ils sont complètement différents à nous. Et deux, c'est de prendre soin de ces gens-là. D'aller au-delà du simple besoin qu'ils peuvent avoir, puis de comprendre la personne, de sentir, de ressentir la personne, puis de s'identifier avec elle. C'est pour ça que Jésus avait tellement de succès. C'est pour ça que les foules venaient après lui, sans que lui fasse de la publicité, sans que lui fasse du marketing. Il n'en avait pas besoin. Parce que la façon comment il les aimait, la façon comment il prenait soin, la façon comment il servait était suffisant pour avoir cet impact-là. Et c'était quoi le constat des gens? Bien, au verset 37, il dit, ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils disaient, il a tout fait à merveille, même il a fait entendre les sourds et parler les muets. Le mot ici pour merveille en grec, c'est kalos, qui veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'une façon excellente, pure, ne laissant pas de place aux reproches, quelque chose qui est vrai, qui est convenable et qui est avec honneur. Les gens, en fond, le constat qu'ils faisaient de Jésus, de sa vie, de son service, c'était ça. Ils disaient, ce gars-là, il fait les choses très bien. En disant il fait les choses à merveille, c'est que il le fait avec honneur. Il le fait convenablement. Il le fait d'une façon excellente. On n'a aucun reproche. Il n'y a aucune place au reproche. Parce que sa vie est exemplaire. Et ce qu'il fait est pur. C'est vrai, c'est-à-dire c'est authentique, c'est sincère. Il n'y a pas d'ambition cachée derrière, là, t'sais. Il n'y a pas un autre agenda caché. Non. Il n'y avait pas des motivations obscures, Jésus. Et il ne devrait pas en avoir non plus chez nous. On devrait être comme lui. Puis de faire les choses de façon à ce que les gens puissent dire, oh, telle personne, tout ce qu'ils font, le font très bien. Ils le font à merveille. Ils le font avec qualité. Voilà le constat plutôt que les gens de l'époque avaient par rapport à Jésus. Et là, la question qui tue, quel constat les gens ont de nous aujourd'hui, les chrétiens? Quel constat les gens ont des églises? Est-ce qu'ils peuvent dire la même chose? Puis dire, ah, oh, tu sais, les chrétiens aujourd'hui, chapeau, ils font les choses bien, à merveille, c'est des gens authentiques, c'est des gens vrais, ils nous traitent avec honneur, ils prennent soin de nous, démontrent l'amour de Christ comme jamais. On répondra pas. Mais voyez, Jésus, par sa vie, met le standard, puis met le critère, puis dit, c'est ça qu'il faut atteindre. Il faut aller là. Donc, on a des défis devant nous, comme peuple de Dieu. On a des défis, comme croyants, de servir et d'aimer comme Christ. Et d'avoir l'impact également, comme lui. Ce n'est pas un plan de marketing qui va faire avancer le royaume de Dieu. Non, mes amis. Ce n'est pas un programme. On peut avoir le meilleur des programmes. On peut amener ici des lasers, de la fumée, des feux d'artifice. On peut amener des super vedettes chrétiennes, des chanteurs. On peut faire les plus gros concerts. Ce n'est pas ça qui va faire avancer le royaume. C'est de servir comme Christ a servi. Et c'est d'aimer et de prendre soin des gens comme Christ l'a fait. Donc, en résumé, le chapitre 7, mais il traite des vrais problèmes. Il traite des problèmes avec les traditions humaines, les philosophies qui vont à l'encontre de ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Qui, dans le fond, la parole de Dieu est quoi? Est la pensée de Dieu. Et comment Dieu pense. L'autre chose, c'est que Dieu traite les problèmes du cœur. Les gens disaient, c'était les aliments, c'est ce qui nous rend impurs. Et Jésus dit, non, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Les mauvaises pensées, c'est ça qui te rend impur. Et le problème du manque d'amour et de compassion. On a remarqué que Jésus ne faisait pas de l'autopromotion, qu'il n'avait pas besoin d'un plan marketing, et que bien souvent, malheureusement, les plans, les programmes sont utilisés pour compenser au faible niveau de maturité, au faible niveau d'engagement, au faible niveau de spiritualité qu'on a dans l'Église. On a vu que pour avoir un impact comme Jésus l'a eu de son vivant, eh bien, l'important c'est de s'attacher à la parole de Dieu plus qu'aux traditions, plus qu'aux philosophies, plus qu'aux rudiments du monde. De garder son cœur pur. Faire attention qu'est-ce qui est nourri dans notre cœur. Qu'est-ce qui est cultivé comme pensée. Et d'avoir la compassion, d'avoir l'amour envers tous. La compassion envers tous, de ne pas faire de la sélection, pas faire du favoritisme. Ça, c'est pas Christ, c'est pas Jésus. Et que l'Église, si elle prenait sa position avec l'Évangile et avec l'amour de Christ, elle pourrait conquérir tous les cœurs. Tous les cœurs pourraient conquérir. Il n'y aurait rien qui pourrait résister à cet amour et à ce message d'espoir, d'espérance qui est si puissant. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est un message d'espoir. C'est un message de paix. C'est un message d'espoir d'avoir une vie nouvelle. D'avoir la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. Et qu'en plus, il y ait cet amour qui soit reflété, qui soit manifesté, il n'y aura pas vraiment d'obstacle qui va pouvoir tenir à ce mouvement-là. Et ce qui est important, ce qu'on a vu, et que Jésus, dans le fond, est notre modèle, c'est d'apprendre à honorer la foi des autres et à prendre soin des autres. Aussi. Donc voilà pour ce soir. On va prier, on va remercier le Seigneur, on va demander qu'il nous parle. On a de quoi réfléchir, de quoi méditer, de quoi demander à Dieu de nous parler, n'est-ce pas? De quelle façon on est en train de vivre? Est-ce qu'on est des hypocrites? Sommes-nous des hypocrites? Jésus s'est pas gêné de dire à des scribes, à des pharisiens, à des religieux, à son époque, qu'ils étaient des hypocrites, des acteurs. Et je pense que nous, on doit également se poser la question, est-ce que je suis en train de faire de la comédie, moi, quand je vais à l'église, ou que je prétends être chrétien, ou vraiment je suis sérieux et engagé, et je suis dans les voies du Seigneur. Et bref, je vous laisse avec ces paroles, on va prier, et on va terminer. Seigneur, on te rend grâce pour ta bonté, Seigneur, pour ton amour, pour l'exemple, Seigneur, que tu nous donnes, qui est un exemple qui est encore vivant, puis est encore d'actualité. C'est ça qui est le plus précieux, c'est qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ta vie, tes enseignements, ton modèle demeurent, Seigneur, encore d'actualité, et encore comme le modèle le plus pertinent, Seigneur. et le plus efficace. Qu'on puisse avoir un cœur comme le tien. Qu'on puisse avoir, Seigneur, une pensée comme la tienne. Qu'on puisse, Seigneur, aimer comme toi tu as aimé. Qu'on puisse servir et prendre soin des autres comme toi, Seigneur, tu l'as fait. Qu'on le fasse, Seigneur, pas avec des motivations obscures, mais qu'on le fasse avec sincérité, avec authenticité, afin que les gens puissent dire que on fait bien les choses, qu'on fait les choses à merveille. La Bible dit que quand les gens verront nos bonnes œuvres, ils rendront gloire à Dieu. Seigneur, qu'on puisse vraiment être la lumière du monde, comme tu nous as bien, si bien dit, Seigneur. Et aide-nous à être des gens avec un cœur pur. Des gens, Seigneur, attachés à ta parole. Des gens, Seigneur, qui avons la compassion. La compassion et l'amour dans un monde qui souffre. Dans un monde, Seigneur, qui tombe en morceaux. Et qui a besoin, Seigneur, d'espoir et d'espérance. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. N'oubliez pas, demain matin, les bénédictions matinales avec le pasteur Florent à 8h30. Et bon restant de soirée, bon restant de semaine. Et je vous dis shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.